Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat, ce sont les débats politiques du dimanche soir sur Europe 1 à 18h35. J'accueille Frédéric Dabi, directeur de l'opinion à l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Bonsoir à William Tay.
Bonsoir.
Fondateur du think tank Le Millénaire. Plusieurs sujets nous attendent, chers amis. On va commencer peut-être par une étude de l'IFOP. Tiens, j'ai lu que 74% des Français veulent une femme Premier ministre.
Oui, voilà, c'est une question Frédéric que... Dabi. Nous avons posé, ça fait 31 ans qu'il n'y a pas eu une femme Première ministre. Emmanuel Macron a envoyé des messages où la majorité présidentielle sur le profil du futur ou de la future locataire de l'hôtel à Matignon. Clairement, les Français le souhaitent. Alors, maintenant, c'est une question, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Ce que je trouve plutôt très notable dans cette question, Pierre, c'est qu'il n'y a pas de clivage particulier. Il n'y a pas une surdemande, par exemple, de la part des femmes. De la part des jeunes. C'est vraiment un souhait massif, très peu de clivage politique également. Voilà. Peut-être que le temps des femmes à Matignon est revenu après l'intermède qui a duré à peine 10 mois, hein, en 91-92, d'Edith Cresson. Mais clairement, quand on interroge notamment des femmes sur les avancées, sur les citadelles à abattre, sur les nouvelles frontières, le poste de Premier ministre n'est pas cité de manière très, très nette. C'est surtout la question des inégalités salariales femmes-hommes, notamment chez les jeunes femmes, et puis la question de la prise en charge et, j'allais dire même du châtiment, des violences sexuelles et des agressions sexuelles.
William Tay, il y a des sujets sur lesquels une femme sera plus efficace ?
Je ne le prendrai pas comme ça. Je dirais que c'est plutôt une question de symbole et de complémentarité de profil avec Emmanuel Macron que les Français recherchent. Ce qu'on voit notamment, c'est que vis-à-vis d'Emmanuel Macron, le couple qui a le mieux fonctionné, c'était avec Édouard Philippe. Et le moment où ça a le mieux fonctionné avec Édouard Philippe, c'était le moment où il était quasiment sur un style qui était en opposition avec Emmanuel Macron. Et quand on regarde les différents sondages portés sur la question du style, le choix du genre, ou même la question de la politique et même la question qui est posée sur est-ce que les Français veulent une cohabitation, on voit que les Français cherchent un complément à Emmanuel Macron. Et donc, par conséquent, comme Emmanuel Macron est un homme, son complément serait du coup, par conséquent, une femme avec un profil qui serait plus calme.
Ça tombe bien, on est trois mecs en studio.
Oui, voilà, je dis ça. C'est une sorte. Moi, je pense qu'ils recherchent plutôt un équilibre de complémentarité. Quand on regarde les choix du Premier ministre, notamment quand ils sont effectués en cas de réélection, il y a un cas qui est similaire, c'est que, par exemple, on savait en 88 que François Mitterrand détestait Michel Rocard, mais que les Français voulaient Michel Rocard en opposition à Mitterrand. Parce que comme un président est réélu, forcément, il a très peu de chances de se représenter pour un troisième mandat. Et donc, du coup, il peut être quasiment sans limite.
Vous diriez la même chose de Sarkozy et Fillon ?
Je pense que Sarkozy et Fillon, c'était quasiment une complémentarité.
Dans les enquêtes, n'oublions pas, Nicolas Sarkozy, on fait un petit peu d'histoire à partir de janvier 2008, quand il met fin au travailler plus pour gagner plus, quand il met en scène son bonheur privé, entre Carla et moi, c'est du sérieux par rapport à l'inquiétude des Français, il devient impopulaire. Il connaît quelques petites progressions, mais il ne redevient jamais majoritaire dans le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus vieux de la Ve République. Alors que François Fillon est, si je puis dire, majoritaire et populaire pendant quasiment tout le mandat parce qu'il arrive à bénéficier d'un effet de contraste par rapport à Nicolas Sarkozy. Quelqu'un, entre guillemets, d'agité d'un côté, quelqu'un de calme et de pondéré de l'autre, quelqu'un que même des électeurs de gauche trouvaient, entre guillemets, moins pire que Nicolas Sarkozy. On a souvent eu, comme William le dit, ces effets de contraste entre un président, un Premier ministre. Et il y a eu deux cas. Les Premiers ministres fusibles, très forts, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, et puis de plus en plus des Premiers ministres, si je puis dire, qui ont laissé le président devenir le paratonnerre. On l'a bien vu, François Hollande, Manuel Valls. Ce qui est très intéressant avec Jean Castex, qui est sur le point de partir, mais il n'a pas démissionné, il est encore et toujours Premier ministre.
Il voulait, et puis finalement, on lui a dit de rester.
Il ne l'est pas, tout à fait, il est toujours à l'hôtel Matignon. Alors, il n'est pas allé à cette cérémonie au Vatican aujourd'hui. Quel est le message envoyé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a paru comme un bon fusil, un bon protecteur du président Macron.
Le message, c'est peut-être parce qu'on va en parler. Il y a le déplacement quand même d'Emmanuel Macron à Abu Dhabi. Il faut quand même que quelqu'un garde la baraque.
Sans doute.
Et en l'occurrence, c'est le Premier ministre. Je crois que c'est Gérald Darmanin, il me semble,
qui est parti
au Vatican. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que d'une certaine manière, parce que ça a été évoqué, Frédéric, il y a comme une punition de Jean Castex.
Non. Alors là, vraiment, je ne sais pas ce que
ça a été évoqué. Et honnêtement, franchement,
ça me paraît extrêmement
honnêtement
farfelu.
Pour tous les services. Jean
Castex. Oui, je pense qu'il y a eu. Non, mais ce qui est très intéressant.
Voilà, coupe au cours quand même à la rumeur, parce que c'est.
D'une part, je pense que c'est une rumeur. Deuxièmement, Emmanuel Macron aura réussi à avoir deux premiers ministres quittant l'hôtel Matignon de façon étincelante.
Ouais.
Édouard Philippe est parti avec un véritable état de grâce.
Oui,
Jean Castex est moins populaire que n'était Édouard Philippe, mais
pas
les Français...
Pas les mêmes relations entre les deux hommes.
Voilà,
hein.
Les Français...
Édouard Philippe, oui, quand il part de Matignon...
oui, il y a peut-être une déception, mais jamais dans nos enquêtes qualitatives, les Français ont eu... ont exprimé le sentiment qu'il y avait des tensions entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ce qui relève du microcosme n'est pas toujours perçu par l'opinion.
William T.
Moi, ce que j'observe notamment avec Emmanuel Macron, c'est que vis-à-vis du casting, il effectue plutôt un bon casting, dans la mesure où les personnes qu'il choisit lui apportent sur l'instant présent une complémentarité à ce qu'il recherche exactement. Quand Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe, c'était à l'époque quelqu'un d'inconnu, et qui lui permettait de parler à la droite, alors que lui-même venait plutôt du centre-gauche. Mmh. Quand il choisit Jean Castex parce qu'il a un problème au moment des Gilets jaunes, notamment avec les territoires et avec les classes populaires, et Jean Castex lui apporte ça. Et donc la question qui est posée, au-delà de la question du genre, qui est certes un élément, c'est plutôt quel est le profil qui manque à Emmanuel Macron. Ce qu'on voit notamment, c'est qu'Emmanuel Macron, même s'il a rééquilibré ce point-là, il a besoin de quelqu'un qui est plus calme que lui. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est que son agenda à l'international va être surchargé pour le prochain quinquennat, notamment sur la question européenne et sur la question de la crise. Il va passer environ 80% de son temps à l'international, donc il faut quelqu'un qui sache gérer la majorité.
Et c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, d'une certaine manière.
Il faut gérer la majorité parlementaire et qui sache gérer le pays pendant son absence. Et après, troisième point, c'est quelqu'un qui puisse impulser les réformes nécessaires et donc qui sache parler à la technostructure. Oh. Donc ces trois profils-là conduisent à certains profils et les noms qu'on cite.
Mais alors, du coup, quand vous voyez la liste des premières ministres potentiels, Azoulay, Vautrin, j'ai entendu
Elisabeth Borne.
Elisabeth Borne qui tient la corde. Et j'ai même entendu parler de Fabienne Keller, qui a été notamment maire de Strasbourg. Ouais. Est-ce que... alors, il y a deux solutions, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui. À chaque fois qu'on dit un nom, il y a moins de chances.
Philippe n'avait jamais été cité avant sa nomination. Donc, on ne va pas faire le jeu des pronostics, voilà, parce qu'on est quand même enregistré.
Est-ce que, pour reprendre ce que dit William T., est-ce qu'il y a cette complémentarité dans les noms qu'on a évoqués dernièrement de ces femmes potentielles?
En partie, oui, mais pour approfondir ce qu'a dit William, qui est très juste, il y a aussi une quatrième dimension dans le cycle particulier que l'on vit. On est dans un cycle électoral. Les élections législatives ont lieu dans quelques semaines. Et le choix du premier ou de la première ministre devra être aussi un signe envoyé à l'électorat macronien, à la majorité présidentielle, et créer ce qui est absolument cardinal dans une élection législative où traditionnellement on vote moins, voire beaucoup moins, 28 points de moins, par exemple, en 2007, c'est la question de la mobilisation. On se souvient, pour reprendre l'exemple de 2017, comme la nomination d'Édouard Philippe, qui, sa première phrase officielle, quand il y a la transmission des pouvoirs, la passation des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve, « Hey, je suis un homme de droite », ça a été un formidable levier pour faire venir un électorat de droite, y compris qui avait voté François Fillon, vers la majorité présidentielle. Donc là, c'est aussi cette dimension-là qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça qu'il faut que ça vienne, parce que pendant ce temps-là, on va peut-être en parler, la gauche unie, la NUPES, a peut-être le vent en poupe, en tout cas plus médiatiquement que réellement, mais en tout cas, elle est là. Il faut, pour la majorité présidentielle, envoyer des signes à son électorat pour le mobiliser.
En tout cas, vous parliez, William T., de l'international qui va être très présent dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Ça commence. Premier déplacement à l'étranger, à peine le nouveau quinquennat en place, alors qu'on n'a pas de gouvernement. On est encore sous l'ancien gouvernement de Jean Castex. Ce déplacement, quand même, à Abu Dhabi, qui a été observé, commenter, comment est-ce que vous voyez ce déplacement avec ce président émirati qu'on avait vu il y a quelque temps lors de la signature d'un contrat d'armement pour l'achat d'avions Rafale? C'est un passage obligé parce que, et d'ailleurs le spécialiste du monde arabe Qatar Abu Dhabi nous faisait la liste des engagements français dans ce pays. Et c'est très juste, ça va au-delà de l'armement, ça va au-delà de l'économie. Il y a aussi le Louvre qui est là et qui prend une dimension éducative et culturelle. Est-ce que c'était... je ne vais pas rentrer dans le bien et le mal, mais qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement?
Alors, si on fait un jugement moral, évidemment, il y a des critiques qui peuvent être formulées à Emmanuel Macron, notamment sur la question des droits de l'homme, et qui peut être présente sur la question électorale dans la mesure où c'est plutôt la gauche qui a le vent en poupe et qui pourrait lui porter ce genre de critiques. Après, sur le point de vue clairement géopolitique, ce qu'on observe notamment depuis plusieurs années, notamment à peu près depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a un rotissement des liens entre les pays du monde arabe, notamment du Golfe, avec la France, qui sont liés pour deux raisons. Premier point, c'est que les États-Unis, petit à petit, se mettent en retrait de cette partie-là du monde. Et donc, du coup, ces pays-là recherchent un autre père protecteur pour pouvoir les défendre et notamment assurer la question de l'approvisionnement en termes de pétrole, qui est très importante pour nous, notamment avec la crise énergétique. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'alliance qu'on a vue notamment après la crise à Daesh, en fait, des pays du sud du Golfe contre l'Iran. Il y a même Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, ça dépend, parce qu'ils jouent à un jeu qui est compliqué, mais plutôt ces pays-là.
Non mais à chaque fois, on dit c'est un jeu compliqué, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
C'est un jeu compliqué dans la mesure où parfois, ils se mettent plutôt à équidistance entre les deux. Et donc, du coup, la France a retissé les liens, notamment avec l'Arabie Saoudite, avec depuis l'arrivée au pouvoir de Ben Salman. Et ce que doit jouer Emmanuel Macron, notamment sur la question de la crise, parce que les deux événements sont liés avec la crise en Ukraine, c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les pays occidentaux se sont ralliés derrière la position ukrainienne et derrière la position américaine et européenne. Mais par contre, les autres pays sont plutôt non alignés sur cette question. Et le rôle d'Emmanuel Macron, c'est d'amener de différents pays pour changer l'équation et notamment renforcer la question de la place et du pouvoir de la France dans le monde, notamment sur deux zones spécifiques, l'Asie, enfin le Moyen-Orient et l'Afrique.
Alors, ces sujets ne sont absolument pas anodins ou plus anodins pour les Français. Moi, je suis frappé de voir à quel point dans nos enquêtes, quand on fait parler les Français sur ce qu'ils ressentent de la vie politique, il cite de plus en plus ces sujets internationaux. L'Ukraine, bien sûr, a été un fort déterminant du vote pendant la campagne présidentielle. Elle a permis à Emmanuel Macron, au premier tour, de bénéficier de cet enjeu de continuité. On ne change pas de capitaine au milieu de la tempête. Et même cette visite dans l'Émirat d'Abu Dhabi, bon, ça ne va pas être noté de manière particulière. Ça fait partie aussi des usages, hein, le nombre de fois où un président de la République où un ministre à l'étranger est allé aux obsèques d'un émir, d'une personnalité du continent africain ou asiatique.
Il
n'était
pas le seul, hein, Kamala Harris, Boris Johnson, le roi d'Espagne, le président israélien.
Vous savez pourquoi, Pierre ? Parce que ce sont des moments où, au-delà du recueillement, on fait de la, la politique, on tisse des liens.
Pas que, business aussi.
Il y a bien sûr du business. Et sur la question du business, les Français regardent ça. Il ne faut pas oublier que c'est sous le quinquennat Hollande que des Rafales ont été vendues pour la première fois et à plusieurs reprises. Et autant nous avons eu des présidents avant Emmanuel Macron, par Nicolas Sarkozy, je parle de François Hollande, très impopulaires, autant sur la question de la dimension internationale, les Français les ont quasiment toujours suivis.
Voilà donc pour le déplacement à Abu Dhabi. Je voudrais qu'on parle de la NUP, ou la NUPES, ou la Nouvelle Union Populaire. Je voyais Jean-Christophe Cambadélis sur CNews à l'instant qui parlait du tout sauf Mélenchon. On en parlait un petit peu avec Philippe Ballard du Rassemblement National il y a quelques minutes sur le fait qu'il y a quand même une grande partie de dissidents dans cette Nouvelle Union Populaire. Il y a quand même quelque chose d'assez franchement... bien arrangée dans cette NUP, c'est qu'elle a, j'allais dire, occupé l'espace médiatique pratiquement depuis le dimanche soir du second tour de la présidentielle.
Tout à fait. C'est vrai que je crois que Mélenchon a saturé l'espace médiatique. Il a réussi ce que la gauche n'avait pas fait pendant des années, c'est-à-dire s'unir. Alors, bien sûr, il y a des personnalités de gauche, notamment socialistes, et que juste qui ne se retrouvent pas dans une union de la gauche avec hégémonie, pour ne pas dire plus, de la France insoumise. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire du peuple de gauche, qui a connu un troisième 21 avril, qui a connu une campagne horribilis, même si en fin de campagne, il y a eu cette très belle dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui échoue que de 400 000 voix, il y a un nouveau récit qui a été imposé par Jean-Luc Mélenchon, qui est la gauche est de retour, la gauche peut gagner. Alors, on verra deux choses au cours de la campagne qui commence à peine. Premièrement, le nombre de dissidents. Il y en aura, mais pour l'instant, les candidatures ne sont pas encore figées. L'offre, c'est à partir, sera figée le 20 mai, si je ne me trompe pas. Et puis, deuxièmement, on verra la déperdition. Dans une enquête IFOP fiduciale pour LCI la semaine dernière, on a une NUP qui arrive à 28%, ce qui est un score tout à fait honorable. Symboliquement, elle est en tête. Mais nous avons fait une autre hypothèse de configuration de premier tour où les forces de gauche partaient séparés, ça faisait 32% l'addition. On voit qu'il y a une déperdition. À qui va-t-elle profiter ? Peut-être à la majorité présidentielle. Et le tout sauf Mélenchon pourrait structurer toujours cette logique de mobilisation qui, je le répète, est absolument cardinale pour un scrutin législatif.
William Tay pour le think tank Le Millionnaire.
Sur ce qu'on observe, c'est qu'en fait, Mélenchon est celui qui joue le mieux depuis le second tour de l'élection présidentielle, dans la mesure où à chaque fois que vous avez une élection législative qui suit l'élection présidentielle, vous avez une démobilisation de tous les électorats. Et la question, c'est comment on fait pour remobiliser l'électorat en vue de l'élection législative. Et Mélenchon a redonné une utilité au vote avec sa phrase en disant « élisez-moi Premier ministre ». C'est-à-dire qu'il a donné du sens à l'élection législative. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il a réussi à faire l'union, mais non pas sur ce qu'on voyait habituellement à gauche, c'est-à-dire une thématique gauche plurielle ou gauche pacte de gouvernement, mais plutôt les autres forces de gauche qui se rallient sous lui avec plutôt ses idées. C'est plutôt sa force politique qui a écrasé
en
celle des autres.
En imposant un programme, en disant c'est ça ou rien.
C'est ça ou rien. Mmh. Et donc, du coup, les autres personnes se sont ralliées. Donc, en fait, sur les élections législatives, il a bien joué son coup. Et sur l'avenir de la gauche, c'est-à-dire que l'avenir de la gauche se construira autour de LFI, qui sera le groupe dominant. Et c'est la première fois que c'est plutôt l'extrême gauche qui soit dominante par rapport à la gauche de gouvernement. La difficulté qu'a Jean-Luc Mélenchon, et c'est l'inconnu qu'on aura vraisemblablement aux élections législatives, c'est qu'habituellement, quand la gauche était au second tour contre LREM, elle sortait traditionnellement plutôt gagnante avec des bons reports de voix au second tour. Mais est-ce que ce coup-ci, en raison de la présence et la surdominance de Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas un vote barrage des électeurs de droite qui ne seront pas au second tour en faveur d'Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon? Et c'est là la difficulté, en fait, on ne sait pas. C'est difficile de faire des projections, c'est-à-dire qu'ils ont une force importante au premier tour, d'environ, je crois qu'ils arrivent en tête dans 190 circonscriptions, 200 circonscriptions. Mais est-ce qu'au second tour, ils ne vont pas se prendre, comme le Front National, une sorte de Front républicain contre la gauche?
Oui, c'est tout à fait plausible. On se souvient que la présidentielle, le premier tour, a été l'objet d'un triple vote utile. Vote utile des électeurs Zemmour vers Marine Le Pen, des électeurs Pécresse vers Emmanuel Macron et des électeurs de gauche vers Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que dans des circonscriptions de gauche plutôt modérées, est-ce qu'un candidat NUP qui ne soit pas socialiste ou écologiste face à la République En Marche, voire face à la droite, si la droite arrive à se qualifier, pourra pâtir d'un vote utile, d'un tout sauf NUP, tout sauf Jean-Luc Mélenchon? Et c'est des choses qui sont probables. Maintenant, il faudra voir, bien sûr, le rapport de force de premier tour. C'est vrai qu'il y a une dynamique pour NUP. Alors, Jean-Luc Mélenchon a prononcé cette phrase absolument stupide d'un point de vue institutionnel, mais un coup de génie politique, hein, « élisez-moi Premier ministre », ça a créé cette mobilisation.
Mais plus c'est gros, plus ça marche.
Oui, plus c'est gros, plus ça marche, mais on voit que ça a quand même marché, Pierre, compte tenu du spectacle de la gauche entre la pré-présidentielle et la pré-législative. Il y a un monde. Maintenant, un électeur socialiste qui voit le PS historique, pas seulement cantonné au vote Hidalgo, qui voit le PS disparaître dans 500 circonscriptions, voilà, quand ça va diffuser, est-ce que ça va être facile à avaler? Est-ce que ça peut accélérer cette recomposition politique? Et là, il y a un danger même pour la droite. Des électeurs de droite voteraient Renaissance, voteraient En Marche pour éviter NUP.
Sur ce que vous avez dit, William Tay, à propos de la façon dont le programme a été imposé par Jean-Luc Mélenchon, vous remarquerez qu'aujourd'hui, sur France 3, Jean-Luc Mélenchon est apparu et il a dit, puisque ça a été, je ne sais plus comment il a dit sa phrase, puisque ça a été décidé comme ça, puisque ça a été conclu comme ça, eh bien, il a été conclu que ça serait moi le Premier ministre. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'on file la métaphore jusqu'au bout. En disant, il y a quand même un seul homme qui a décidé ça, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Ouais. Mais c'est un peu le... Jean-Luc Mélenchon poursuit le paradoxe de François Mitterrand dans les années 60-70. François Mitterrand combattait le gaullisme et combattait la Ve République sur le style en attaquant le bonapartisme, le césarisme. Et Jean-Luc Mélenchon, pareil, attaque la Ve République, le bonapartisme d'Emmanuel Macron ou même le bonapartisme à l'époque de Sarkozy et se comporte exactement comme un leader bonapartiste et un leader césariste. C'est tout le paradoxe en fait, des hommes de gauche, c'est qu'ils attaquent les institutions de la Ve, mais se plaisent dans les institutions de la Ve, attaquent le style bonapartiste-césariste et adoptent le style bonapartiste-césariste.
Comme dirait Charles Villeneuve, et il le dit très très bien, et c'est tout à fait juste ce qu'il dit, il se comporte comme Danton alors qu'en réalité c'est Robespierre.
Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, il y a une admiration du Parti de la France Insoumise pour Saint-Just et pour Robespierre. La différence quand même notable entre Jean-Luc Mélenchon et François Mitterrand, c'est que François Mitterrand, en 74, alors qu'il échoue que de 600 000 voix, il accepte complètement sa défaite et il ne remet aucunement en cause, alors que le mandat va être très tendu, la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. De la même manière, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, pourtant un anti-Giscard de référence, n'a jamais remis en cause la légitimité du pouvoir. C'est en ça qu'on peut qualifier de dangereux le jeu de Jean-Luc Mélenchon, mais ça crée de la mobilisation et ça installe, ça impose un nouveau récit.
Je le disais tout à l'heure à Philippe Ballard, mais c'est une réflexion qu'on a eue dans Les Grandes Voix et puis il y a d'autres observateurs qui ont cette réflexion également, c'est qu'on en oublierait presque que c'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour. On en oublierait presque que c'est Marine Le Pen qui est arrivée deuxième au premier tour
Les Français ne l'oublient pas, parce que quand on les interroge la semaine dernière sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, Marine Le Pen arrive en tête. Mais elle est au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Mais n'oublions pas, c'est pas complètement nouveau. Mais... En 2017, après les élections législatives qui avaient été meilleures pour la France Insoumise que pour le Rassemblement National, c'était Jean-Luc Mélenchon qui incarnait le mieux l'opposition. Oui. Et le tournant, Pierre, c'est les Gilets jaunes, ou après les Gilets jaunes, c'est de nouveau Marine Le Pen qui apparaît comme
la
meilleure opposante.
En attendant, elle a disparu. Enfin, je veux dire, quoi qu'on m'en dise, quoi que me dise Philippe Ballard tout à l'heure pendant l'interview, je veux dire, effectivement, et d'ailleurs il en convient, il a dit, vous savez, la campagne a été dure, elle se repose, etc. Et là, elle refait quand même. Ouais, mais en attendant, t'as Mélenchon qui est là. Il est arrivé dès le dimanche soir en disant, attendez, on va faire une grande union populaire. Enfin, pardon, mais c'est...
Bah, elle a rendu quasiment son vote inutile à travers deux déclarations. C'est que Jordan Bardella a dit que Marine Le Pen n'avait aucune chance d'être élue Premier ministre. Donc maintenant, il faut demander aux électeurs du Rassemblement national de se mobiliser en juin pour aller voter pour des députés Rassemblement national. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils voteraient des députés Rassemblement national, dans la mesure où même le chef du Rassemblement national dit qu'il n'y a aucune perspective de victoire. Et deuxième point, elle disparaît. Mais ça, c'est comme en 2017. C'est-à-dire qu'elle laisse petit à petit le chemin de l'opposition à mener entre Jean-Luc Mélenchon. Il y a une différence notable entre maintenant et 2017. Oui. C'est que Jean-Luc Mélenchon peut incarner... Il peut faire entre 150 et 200 députés. Alors que là,
elle joue sur l'honnêteté aussi, Marine Le Pen, en disant bah oui, il n'y a pas de chance que je sois Premier ministre.
Oui, mais c'est comment
elle
vous construisez.
Élu Premier ministre, elle a raison. Institutionnellement,
bien sûr, constitutionnellement.
Oui, mais il y a une différence avec les années précédentes que moi je trouve sur les élections législatives. C'est la volonté et le souhait, à la différence des autres élections, des Français d'avoir une cohabitation. D'habitude, quand on pose la question aux Français, dès que Dabi pose la question habituellement, les Français ne veulent pas de cohabitation à suite des élections d'un président de la République.
C'est tricoté puis détricoté, donc évidemment.
C'est pas l'objectif. Alors que là, il y a plutôt une majorité de Français qui veulent une cohabitation. Dans la mesure où Emmanuel Macron a été un peu élu par défaut contre Mélenchon et contre Le Pen, il y avait une utilité aux élections législatives et donc du vote aux élections législatives.
Merci à vous deux. Merci William Tay. Merci Frédéric Dabi. Dans un instant, direction Rome. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, a assisté à la canonisation de Charles de Foucault, l'homme aux trois vies, il nous en parle. Et puis dans Panorama à 19h30, votre nouveau rendez-vous sur la société, sur vos habitudes, vos craintes, vos envies, direction les vacances. Les vacances façon 2022. Nos habitudes ont changé après le confinement. Les professionnels du voyage nous en parlent. Et puis dans 3 minutes, c'est le journal des 19h, bien sûr, à tout de suite.